Alors, continuons, mes chers frères, sur cette face B de la cassette, à chercher dans l'Écriture, la parole de Dieu, ses conseils sur l'amour de l'Église. Il a dit qu'il n'y avait pas d'amour possible de l'Église si on ne s'aimait pas les uns les autres. Deuxièmement, qu'il fallait s'aimer jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Et voyons troisièmement, pourquoi faut-il s'aimer en Église? Jésus répond, « C'est à ce signe que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. » Et dans sa prière sacerdotale, Jean 17, 22 et 23, s'adressant à son Père, il dit qu'il soit un, comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils viennent à l'unité parfaite, et qu'ainsi, le monde puisse connaître, et notons bien, deux choses. Connaître que c'est toi qui m'as envoyé, et deuxièmement, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est donc une grande responsabilité que ce devoir d'aimer l'Église et de s'aimer en Église. À la question, comment faut-il s'aimer? Là encore, la parole de Dieu est très claire dans Jean 15, 15. « Je vous appelle amis et non plus serviteurs, parce que tout ce que j'ai appris ou entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Donc, je vous l'ai partagé. » Il a partagé le plus riche de son vécu. Et on sait qu'au verset précédent, verset 14, il disait, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Enfin, ajoutons que l'amour qu'on doit avoir en Église et pour l'Église, en plus de venir de Dieu, d'être un signe, d'être à base de partage, comme on vient de le mentionner, doit être imprégné, à son exemple, de miséricorde, d'indulgence et de pardon. Alors, mes frères et sœurs, c'est l'occasion choisie à ce moment-ci de demander au Seigneur de venir nettoyer toutes nos blessures, nos déceptions, nos peines d'amour, nos rejets face à l'Église et d'accorder de vrais pardons aux hommes et femmes d'Église qui nous ont déçus, blessés ou scandalisés même. En somme, l'amour de l'Église, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas, on ne peut pas prétendre aimer vraiment l'Église, ou on doit prétendre aimer vraiment l'Église, que si l'amour qu'on a pour elle, l'Église, est vraiment le sien, avec un grand S. L'amour qui vient réellement de Dieu amour. Et que cet amour, en outre, s'exprime dans le complet respect du commandement nouveau, le « aimons-nous les uns les autres » comme lui nous aime. Si notre amour de l'Église produit également le grand et savoureux fruit spirituel du vrai de vrai partage fraternel, de ce que Dieu opère en chacun de nous. Bref, le véritable amour de l'Église, corps vivant du Christ, ne peut venir que du Dieu amour lui-même à travers nous. Tout autre type ou forme d'amour de l'Église, généré ou alimenté à même nos propres forces humaines, est nettement insuffisant, éphémère et peut devenir illusoire et trompeur. Et en pratique, nous le savons, beaucoup d'hommes et de femmes d'Église, sans trop s'en rendre compte, tombent en amour davantage avec leur ministère, leur fonction, leur titre, leur apostolat, leur prestige, qu'avec l'Église dans ce qu'elle est ou a d'essentiel. Certains finissent même, on le sait, par se prendre pour l'Église et s'aimer eux-mêmes. J'entends encore l'écho de la voix d'un évêque qui me disait, et avec le plus grand sérieux, L'évêque, c'est l'Église. Quand je parle, c'est l'Église qui se prononce. Il est donc évident que pour lui, aimer l'Église, c'est être en amour avec lui-même. À lui seul, il se sent l'alphabet au complet de la vie de l'Église, y compris l'alpha et l'oméga. Faisons bien attention et ne soyons pas trop facilement dupés, mystifiés et trompés par ceux et celles qui jouent, et je dis bien jouent, aux grands défenseurs de l'Église, soi-disant au nom de la vérité, du bon ordre, de leur amour pour l'Église. Sachons discerner avec prudence, les discerner avec sagesse. Les vrais de vrais défenseurs, veilleurs et protecteurs de l'Église, et Dieu merci, il y en a, et en bon nombre, il faut les distinguer de ces enjôleurs, de ces mystificateurs qui tentent à tout moment, à coup de déclarations parfois pathétiques, orales ou écrites, de nous faire croire à leur grand amour de l'Église, alors qu'en définitive, ils veulent nous ensorceler à leur cause et à leur suite. Attention, mes frères et sœurs, l'Église est envahie, hélas, plus que jamais, en certains endroits et à bien des niveaux, de ces charmeurs, trompeurs, hâbleurs parfois, les uns conscients, les autres à leur insu et un peu malgré eux ou elles. Croyez-moi, plusieurs de ceux de celles qui s'adonnent à ce role-playing, de facto, ne défendent pas l'Église en tant que telle. L'Église, corps vivant du Christ, peuple de Dieu en marche, temple de l'Esprit-Saint. Mais au fond, sans s'en rendre compte, se défendent eux-mêmes et en fait défendent souvent davantage leur peau, leur job ou leur pouvoir. Le vrai défenseur de l'Église, le vrai de vrai amoureux de l'Église, n'est pas d'abord un plaideur, n'est pas un beau et bon parleur nécessairement, mais quelqu'un en qui circule l'amour de Dieu, au point tel que le peuple de Dieu rassemblé en Église le voit, le sent, le goûte à travers lui ou elle. Ce bien-aimé de Dieu devient normalement le bien-aimant des autres, et cet aller-retour rend l'Église, par voie de conséquence, à son tour, elle-même, bien aimable, plus aimée et plus aimante. On sait que dans le monde moderne, en toute prudence élémentaire, on doit toujours se tenir éloigné d'un lieu de pollution, d'un endroit où l'on conserve des produits toxiques dangereux, d'un volcan qui crache souvent des cendres, de la lave brûlante, du feu. Eh bien, sachons-le, la même prudence et sagesse, non seulement humaine, mais bel et bien chrétienne, exige des fidèles, prêtres, laïcs ou religieux, religieuses, de se tenir éloignés dans toute la mesure du possible. Et à dessein, j'échappe même l'expression « fuir comme la peste ». Ces lieux d'Église ou en Église, ces institutions, ces rencontres, ces mouvements, et même, si nécessaire, ces centres diocésains, évêchés, maison-mère ou maison-père, d'où émanent continuellement de la diffamation, des critiques qui crachent des cendres et de la lave sur certains de leurs membres, prêtres, religieux, religieuses ou fidèles engagés. Ces lieux et milieux sont toxiques et intoxiqués. Prenons et gardons nos distances d'ici à ce que le feu du ciel vienne les purifier et les convertir. Et passons, si vous le voulez, au troisième chapitre, servir fidèlement l'Église. Jésus précise qu'en son Église, tout doit évoluer, comme d'ailleurs il en a donné l'exemple, dans un esprit de service et non un esprit de pouvoir. Dans Matthieu 23, 11 et 12, il dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » On connaît l'exemple du lavement des pieds. Donc, il n'y a aucune place en Église, selon le plan de Dieu, pour l'orgueil, la suffisance, l'esprit de domination. On n'a pas le droit d'en faire son affaire avec un petit S, mais son affaire avec un grand S à lui. On doit la servir et non pas la servir. Pour les fins de l'exposé, je vais faire une distinction entre le service au niveau de l'autorité et ensuite le service d'Église au niveau des fidèles. Voyons d'abord l'esprit de service au niveau de l'autorité. L'idée d'une Église à la fois hiérarchisée et institutionnalisée vient de Dieu. Nous l'avons vu il y a un instant. Mais le même Seigneur a voulu que cette hiérarchie, cette institution en Église, soit intégrée ou imprégnée, plutôt imbibé à fond, non pas d'esprit de pouvoir, mais d'esprit de service. Ce qui, à la longue, et vous en conviendrez avec moi, a détruit peu à peu l'Église au cours des siècles, ce n'est pas le fait en lui-même qu'elle ait été une hiérarchie, qu'elle ait eu plutôt une hiérarchie en autorité, ou qu'elle se soit institutionnalisée. Ce n'est pas la cause première ou principale de son déclin en cours et de sa dégénérescence. Le vice majeur qui a tout compromis, vicié, dévié, c'est le subtil esprit de pouvoir qui s'insinue partout avec les meilleures intentions sous 36 beaux prétextes et qui, par son attitude de dominant-dominé, cesse de servir pour se mettre à asservir. Donc, nous conduit à une communauté de fidèles qui, lentement mais sûrement, est prise en otage, tant par l'institution que par sa hiérarchie. Alors que l'esprit de service fait ou ferait s'épanouir l'initiative, la créativité, la spontanéité et le sens de la responsabilité spirituelle des enfants de Dieu, l'esprit de pouvoir, lui, au contraire, parce qu'il ne semble pas faire confiance aux personnes, décide à leur place, impose continuellement de haut en bas ce qu'il faut penser, faire ou dire en Église, amortit à la longue tout élan spirituel inspiré, démobilise les fidèles et même, en une certaine manière, désassocie, disloque la communauté, même si on multiplie par ailleurs les beaux discours, les homélies, les exhortations sur la nécessité d'avoir une communauté dite fraternelle en Église. À mon avis, mes frères et sœurs, actuellement, l'Église continue à brûler encore deux étapes préalables, importantes et indispensables. Elle s'évertue encore trop avec son subtil esprit de pouvoir à vouloir porter et sauver par elle-même les fidèles, et elle y réussit de moins en moins. Pourquoi? Parce que l'esprit de pouvoir, en prenant la place de l'esprit de service, a tout inversé le plan et le circuit de croissance prévu par Dieu. Et je m'explique. L'Église n'a pas, du moins en première et deuxième instance, à porter les fidèles. Les Anglais diraient « it's the other way around ». C'est le circuit inverse que Dieu a voulu et qui s'impose. En première instance, l'Église doit, en étant en état et en esprit de service, montrer d'abord aux fidèles à se laisser prendre en main et porter par Dieu d'abord. Les baptisés et les confirmés reçoivent à cette fin toutes les lumières et les forces requises. À l'Église, alors, de se contenter d'accompagner, d'encourager, mais non de porter et de prendre en tutelle. En deuxième instance, les fidèles qui auront appris à établir cette relation avec Dieu, à se sentir portés par lui, deviendront de mieux en mieux des bien-portants spirituels. Et alors, l'Église pourra leur apprendre comment porter ensemble l'Église, c'est-à-dire leur rassemblement et leur communauté. Mais ici encore, l'Église officielle et hiérarchique doit se contenter d'enseigner, de faire confiance, d'accompagner, mais doit éviter de porter et de se substituer aux fidèles. Ce qu'on appelle en doctrine sociale de l'Église le principe de subsidiarité, c'est-à-dire la délégation qui va en partant de la base et en remontant, ce qu'on ne peut pas faire à la base, on le délègue à un niveau supérieur et ainsi de suite, qui part donc de la base en remontant, doit jouer en Église plus que jamais. En troisième instance, enfin, grâce à des fidèles devenus matures, responsables, engagés, spontanés, inspirés par le Seigneur, en bonne relation avec eux, donc bien portants spirituellement, grâce à ces fidèles, l'Église, dans son ensemble, deviendra elle-même bien portante et pourra alors, à son tour, vraiment aider le monde à se mieux porter. Et finalement, une Église et un monde dont nous sommes membres, se portant de mieux en mieux, rendra gloire à Dieu qui les ont créés, sauvés et réanimés, Père, Fils et Esprit. C'est dans ce merveilleux scénario prévu et voulu par le Seigneur que l'esprit de pouvoir n'a plus sa place, car il vient tout détruire, alors qu'il voudrait aider et sauver. Alors que l'esprit de service, lui, opérera des miracles, s'épanouira, ne sera jamais en chômage et surtout fera de plus en plus autorité. Et avant de terminer ce point, j'aimerais dissiper ici une confusion fréquente entre esprit de service et dévouement. Beaucoup d'hommes et de femmes en Église prennent leur grand dévouement, le fait qu'ils se désarment, la générosité de leur engagement et de leur zèle comme autant de preuves qu'ils ont l'esprit de service idéal pour leurs frères et sœurs. Alors qu'en fait, ils et elles sont animés, sans le savoir ou s'en rendre compte, du plus pur esprit de pouvoir. En effet, ce n'est pas le degré de dévouement qui crée la différence véritable entre l'esprit de service et l'esprit de pouvoir. Les plus grands tyrans de l'histoire ont tous été des gens dévoués, très dévoués pour leur peuple. Et en général, tous les autoritaires les dominateurs, les puissants de la terre sont des gens très actifs, dévoués, dédiés à leur cause, zélés. C'est d'ailleurs ainsi qu'ils s'imposent. La grande différence entre l'esprit de service que Jésus recommande à ses apôtres et disciples et l'esprit de pouvoir qu'il dénonce n'a rien à voir avec la quantité ou l'intensité de ses activités pour les autres, mais se situe au niveau de la mentalité spirituelle qui nous inspire à aider le prochain. Est-ce que je veux d'abord et surtout découvrir avec mon frère ou ma sœur ses besoins, ses désirs actuels, réels, afin de l'aider à trouver avec lui ou elle les meilleures solutions? Ça, c'est être en état de service. Je viens faire ou parfaire ce que seul, il ou elle ne pourrait réussir. Je l'aide à prendre confiance, à voir plus clair, à grandir, à se revaloriser. C'est ça de l'esprit de service. Si au contraire, je pars de mes propres options, si bonnes soient-elles, que je mets mes projets au point et en marche pour ensuite tenter de les faire accepter et adopter par les autres, ma mentalité et mon approche sont très souvent alors du type esprit de pouvoir. Mon autorité alors n'est pas service, mais commandement, imposition, directivité, même si je procède avec doigté et consultation. Et c'est surtout cette seconde approche qui est la plus fréquente dans la majorité de nos milieux d'Église. Certes, on se surmène, on s'époumonne, on se brûle même à la tâche, mais c'est la rançon du pouvoir dans la plupart des cas. L'esprit de service est aussi différent de l'esprit de pouvoir que le jour et la nuit, que le froid et la chaleur le sont. L'esprit de pouvoir est facilement inquiet de son succès, souvent menacé, contesté, toujours tenté à s'affirmer, à contrôler, à réviser, devient donc lourd et exigeant. Alors que l'esprit de service, au contraire, s'il est bien accompli, est toujours un succès en soi, car l'autre a sa responsabilité et sa liberté d'y donner suite ou non. On part de la question de l'autre, de son désir, de son besoin, de son étape actuelle pour l'aider à aller plus loin et plus haut. Et si l'on vit tout cela avec le Seigneur, lui, il se charge de nous tailler et de nous préparer notre clientèle, qui est en fait la sienne, de nous inspirer au fur et à mesure les conseils à donner, de nous instruire nous-mêmes au fil des événements, de nous donner d'abondant sucre à la crème qui confirme l'utilité et l'efficacité de ces services rendus. En général, et c'est un bon moyen de faire son propre discernement, œuvrer pour lui et avec lui en état de service, c'est quelque chose de détendant, de pacifiant, de réconfortant, de calmant et de stimulant à la fois, d'enrichissant, d'édifiant et de sanctifiant. Disons quelques mots maintenant du service au niveau des fidèles. Qu'est-ce que c'est que servir l'Église pour un fidèle? Je dirais que c'est au minimum deux choses. S'exprimer et s'impliquer. S'exprimer, c'est-à-dire prendre option, avoir des opinions, les faire connaître ses préférences. Et je vous réfère à l'enseignement intitulé « La troisième voie VOIX et VOIE en Église ». C'est également s'impliquer par engagement. Et l'engagement en Église, et les gens vont le comprendre avec les enseignements sur la mission du Père, ça peut être un engagement dans le visible comme dans l'invisible. Et il faut discerner son engagement en partant non pas des impressions ou des pressions des autres, mais de lui et de nous. Car lui et nous sommes les mieux qualifiés pour savoir où nous en sommes présentement dans les deux marches en cours, la marche de Dieu vers son peuple et du peuple vers lui. Ces types de marches, pour prendre un slogan populaire, exigent notre action-participation. Ce n'est vraiment pas servir et aimer l'Église que de ne rien dire ou faire pour qu'elle s'améliore, se corrige au besoin, soit aussi belle et sainte et irréprochable que le Christ lui-même, tête de son corps qu'est l'Église, le désire et a donné sa vie pour qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas vraiment servir et aimer l'Église que de laisser l'erreur se dire ou se faire quand on s'en rend compte et qu'on pourrait intervenir. Beaucoup trop de fidèles, on le sait, d'une part s'en lavent les mains, quitte, d'autre part, à se salir la langue, à critiquer et diffamer dans les coulisses. Ce n'est pas servir l'Église non plus que de croire que le succès et la réputation de l'Église ont peu d'importance, ne nous concernent pas, ne sont pas de notre responsabilité. Disons enfin que ce n'est pas servir et aimer l'Église que de s'en éloigner, de la quitter avec éclat, de ne plus vouloir en entendre parler, sous prétexte de dénoncer, protester, condamner ceci ou cela, un tel ou une telle, ou de se venger de tel homme ou telle femme d'Église répréhensible. Servir et aimer vraiment l'Église, c'est au contraire faire effort, un effort continu, pour la mieux connaître dans son rôle et sa nature essentielle, sa raison d'être importante pour le monde en général et chaque individu en particulier. C'est goûter et apprécier son appartenance à l'Église. C'est avoir à cœur sa réputation, son constant progrès et rendement spirituel. S'y engager visiblement et invisiblement, selon là ou les missions que le Seigneur nous met au cœur. Nous avons tous à faire notre part dans le succès spirituel de cette double marche du peuple de Dieu, et y contribuer donc de sa personne, de son temps, de ses efforts et de ses deniers, comme nous le disions plus tôt, à son appel, sous sa mouvance, pour sa gloire, avec ses résultats, dans les âmes surtout. Et passons rapidement et brièvement au quatrième et dernier chapitre, prier pour l'Église. Je serai bref, car c'est une conviction que nous avons tous, mais je réaffirme ceci. On peut être tenté de s'imaginer qu'elle en a moins besoin que le monde ou chacun d'entre nous. Or, c'est tout le contraire. Sa mission étant plus grande, elle a besoin de plus de lumière, de plus de force. Elle est la cible constante des forces adverses qui tentent tout pour compromettre, détourner et paralyser les deux types de marches en cours, Dieu vers nous et nous vers Dieu. Constater et comprendre que l'Église est constamment sous attaque. Les forces adverses sont impitoyables à son endroit. Et à cause de nos limites et de nos faiblesses, l'Église est attaquée souvent, non seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ses grands ennemis sont judoka et l'esprit du monde. Ses deux grandes lacunes sont le manque de charité fraternelle et le manque d'intimité avec le Seigneur. Si nous sommes d'ailleurs le moindrement attentifs, l'esprit défenseur, le paraclet, en fait lui-même présentement le procès et nous en livre discrètement et intérieurement l'évaluation. L'heure est donc venue, mes frères, à l'exemple de Moïse. Nous connaissons ce texte de l'Exode. Jetons-nous à genoux, confessons notre péché et notre orgueil et implorons sa miséricorde. Et demandons avec ferveur, comme Moïse l'a fait, un peuple et une église qui vraiment lui appartiennent et qu'il revienne et daigne à nouveau marcher au milieu de nous. Avant de conclure, et suite à ces quatre chapitres qui nous ont rappelé l'importance de bien connaître l'Église, de l'aimer vraiment, de la servir fidèlement et de prier pour elle, j'aimerais ajouter, en guise de corollaire, et forcément pas de course car le temps à notre disposition est limité, quelques réflexions choc brèves. Et je prie l'Esprit Saint d'en faire un bon cordial pour nos cœurs, un remontant plus que nécessaire en ces temps présents, non seulement exceptionnels, mais héroïques même, que nous devons tous traverser ensemble en Église. Premier corollaire, on ne change pas l'Église. Mais l'Église peut changer si toi, moi et nous, on se laisse ou on le laisse nous changer. Si j'opte pour le style 2, si je m'entends avec d'autres pour le vivre, et si je dis oui, Seigneur, où veux-tu que j'aille missionner et moissonner? Dans le style actuel de l'esprit de pouvoir, périodiquement on se redéfinit, on change le vocabulaire, on déplace la ponctuation, on ajoute des accents graves ou circonflexes, on met des nouveaux soulignés, mais tout compte fait, c'est du pareil au même. Même style 1, avec son esprit de pouvoir. Décrit ou réparti autrement, mais qui revient à la même case de départ. Des mots M-O-T-S nouveaux, mais avec les mêmes mots M-A-U-X. Deuxième corollaire. L'heure est venue pour des millions de fidèles, prêtres, laïcs, religieux, religieuses, qui ont été envoyés aux catacombes par leurs propres frères et sœurs en Église, de commencer à en sortir au plus tôt, avec courage, avec la tête haute et le cœur rempli d'amour et de miséricorde envers ceux et celles qui, au lendemain et depuis Vatican II, les ont ainsi contraints, à toute fin pratique, de se taire, de s'effacer, de rester au cachot. En effet, ils et elles sont légions, mes amis, ces prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui ont été bousculés, raillés, ridiculisés, accusés et même condamnés, en quelque sorte anathématisés par leurs confrères et sœurs en Église pour avoir voulu continuer à croire pour vrai, à prier avec ferveur, à donner priorité de vie et de temps aux réalités d'en haut sur les réalités d'en bas, à déclarer leur amour, leur écoute et leur disponibilité au Seigneur avant tout et avant tous, tout en étant disponibles pour se dévouer en son nom auprès de leurs frères et sœurs, surtout démunis. Depuis Vatican II, contrairement aux premiers temps de l'Église, les catacombes ont dû se multiplier, non pas hors des murs, hors de l'Église, ou contre des forces adverses, mais à l'intérieur même de nos murs. Combien, le nombre en est effarant, ont dû se cacher, se faire oublier, se camoufler, prendre le maquis pour pouvoir continuer vraiment à croire à fond, à adorer à leur guise, à prier et à partager leur vécu merveilleux avec Dieu. Et ce, dans leur lieu de vie, de travail ou de résidence, presbytère, monastère, évêché, couvent, centre diocésain, etc. Je dis à ses frères et sœurs, sortez, sortez des catacombes. L'Église, pour éviter l'hécatombe possible à certains égards, a un urgent besoin de vous. Sans peur, ni reproche, sans amertume ni vengeance, mais avec amour, joie et paix et miséricorde, commencez, recommencez à proclamer et réclamer avec force et clarté votre désir d'une Église remise à nouveau entre les mains de son Maître. Troisième corollaire, soyons indulgents et miséricordieux envers tous ceux et celles qui ne voient pas et n'entendent pas. De même que la charité fraternelle la plus élémentaire nous engage non seulement à ne jamais nous moquer d'un frère ou d'une sœur qui est aveugle ou a de la difficulté à circuler, à entendre ou à goûter, mais nous incite plutôt à les aider, à leur exprimer plus d'attention et d'affection, je dirais qu'il faut agir de même. Surtout durant ces années exceptionnelles que nous traversons envers tous ceux et toutes celles qui, spirituellement parlant, ne voient pas ou n'entendent pas ce qui se passe et se vit d'extraordinaire présentement dans les âmes, l'Église et le monde. Et j'ajouterais même, avec d'autant plus de miséricorde, d'indulgence et de compréhension, que leur poste de responsabilité est élevé et leur titre ecclésiastique important. Bien sûr, en Église, comme dans tous les autres secteurs de la société, il y en a qui pourraient voir ou pourraient entendre, mais sont bloqués par leur orgueil, leur intellectualisme, leur suffisance, un certain snobisme, ou simplement handicapés par leur vie trop à la course, leur prise en otage par les pressions de l'entourage. L'Église ne manque pas, elle non plus, de ces types de victimes de la vie du style 1. Mais il n'y a pas qu'eux et elles. Il y a toute cette légion déjà prophétisée depuis fort longtemps, beaucoup plus nombreuse qu'on ne pouvait l'imaginer ou le croire, et déjà cela éclate de toute évidence sous nos yeux, surtout depuis quelques années, cette légion d'hommes et de femmes d'Église qui, par une permission de Dieu, traverse présentement une épreuve de purification, celle de vouloir voir et de vouloir entendre, mais de ne pas pouvoir voir ou entendre. Ils voudront voir, ils voudront entendre, ils voudront comprendre, mais ne le pourront pas. Pour certains et certaines, cette épreuve en cours risque d'être prolongée, d'être douloureuse, et sera leur grande humiliation à la longue, dont nul doute Dieu tirera le plus grand profit. Nous leur devons donc non seulement indulgence et miséricorde, mais également, mes frères et mes sœurs, tout l'amour, la prière, l'accompagnement et le soutien possible. Et concluons. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est souvent la foire aux contradictions en Église à l'heure actuelle et la course aux puces, là où souvent elles ne sont pas logées. Et malgré tout cela, mes chers frères et sœurs dans le Christ, je vous en prie de tout cœur, restons sereins, calmes et patients. Cela achève, je vous l'assure. Certes, ça va brasser dans la marmite au cours des prochains temps. De très gros bouillons ou bouillonnements vont faire sauter parfois le couvercle à quelques reprises. Mais ce haut feu, ne l'oublions pas, sera pour notre plus grand bien à tous. Ce feu va providentiellement purifier plus que jamais, à la fois cuire et attendrir bien des gens et bien des choses. À ce moment-ci, redisons-nous ces phrases prophétiques et héroïques à la fois de saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, 4, 8 et suivants. Et je cite, « À tout moment nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéanti. Mes frères et sœurs, je vous le redis, restons calmes, restons sages, restons charitables, restons vrais, restons libres. L'étoile qu'est Jean-Paul II va nous conduire au bon port du renouveau, auprès du Christ, chef de l'Église, dont il est le fervent et exemplaire vicaire actuel, et dont il attend, comme nous, le tout imminent retour. La victoire est assurée. Jésus en a payé le prix au complet, comme saint Paul le rappelait aux Éphésiens, et c'est sur ce passage de l'Écriture que nous allons terminer. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce. Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. Lettre aux Éphésiens. Mes frères et mes sœurs, puisse ce vin nouveau du Seigneur nous réconforter en ces heures importantes de l'histoire de l'Église et du monde. Apprenons à bien connaître l'essentiel de l'Église, à se rappeler son véritable but, à l'aimer comme Dieu l'aime et nous demande de l'aimer, à la servir dans un esprit de service et non de pouvoir, à s'exprimer et à s'impliquer, et à prier avec ferveur pour elle. Et disons, prosternés devant la Trinité Sainte, avec tous les élus du ciel, amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des